Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation. Pour lire les sonnets de William Shakespeare, dans leur traduction française, on peut recourir à deux traductions principalement. Celle de Robert Elroth, publiée dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, et celle du poète Yves Bonnefoy, dans la collection de poche NRF Poésie Gallimard. De plus, chacun de ces deux traducteurs propose une éclairante préface, l'un comme l'autre y soulignant une difficulté d'approche. Eliot, indirectement, je le cite, « Lire les sonnets d'un trait engendre l'ennui, selon William Wordsworth, la lassitude, selon Walter Savage Landor, un sentiment de monotonie, d'après William Hazlitt. Bonnefoy, directement, en affirmant, je le cite, « Les sonnets de Shakespeare ne me furent pas, je l'avoue, d'un très grand attrait à mes premières lectures. » Et un peu plus loin, il ajoute, « Beaucoup de ces poèmes sont loin de me parler comme le font les derniers de John Donne, le presque contemporain, ou les odes de Keats, ou les emportements de Yeats, si proches, pourtant si souvent, de la façon dont écrit Shakespeare à la scène. Et c'est un fait, encore et surtout, que je n'entends pas ces vers avec autant d'évidence que les grandes voix qui me viennent de cette scène, ainsi celle de Hamlet, qui monte du fond de la parole, ou celle de Caliban, à un moment ou deux, la poésie pure. La poésie dans les sonnets, elle me semble bien trop enveloppée, cette fois encore, dans les plis d'une rhétorique, et je fus prêt, un moment, à me laisser rebuter par le fréquent recours qu'elle fait à des stéréotypes de la pensée morale ou du sentiment qui semblent indignes d'un grand poète. Une belle musique des vers, qu'en pense-t-elle d'apprendre que les femmes sont infidèles ou que les chancres rongent les roses, ou de voir garder associé Hideous à Winter ou Night, comme si la chose terrestre était décidée une fois pour toutes. Les sonnets de Shakespeare sont quelquefois des chefs-d'œuvre, mais aussi ils sont cause de cette sorte d'étonnement. Mais l'originalité et la profondeur de l'approche de Bonnefoy résident en ceci, qu'après avoir buté sur et contre l'aridité rhétorique des sonnets, il ne renonce pas à la questionner. Il conviendrait de lire toute sa préface au sonnet. Soulignons simplement l'hypothèse centrale de Bonnefoy. Mais avant, rappelons la structure d'ensemble des 154 sonnets. Les 126 premiers sonnets s'adressent à un jeune homme que le poète presse d'abord de se marier afin de créer un autre soi-même. La dernière partie du recueil comporte 28 sonnets adressés à la dame brune, la Dark Lady, qui a corrompu le jeune homme, d'abord évoqué. Chacun de ces deux groupes a une conclusion distincte, ou plutôt une coda. Revenons toutefois au questionnement d'Yves Bonnefoy, qui s'interroge sur la rhétorique figée qui innerve un grand nombre de sonnets. Je le cite encore. Où est Shakespeare dans les sonnets? Shakespeare, non tant celui que voudraient y retrouver les biographes, que le poète pensant la poésie. Le grand Shakespeare, l'auteur génial d'Hamlet et de La Tempête, prend-il à son compte, assume-t-il les stéréotypes, les clichés souvent éhontés, qui prospère au plan manifeste de ces textes, ou en observe-t-il le discours du sein d'un niveau plus profond où lui permettrait de se tenir éveillé son écriture? Eh bien, mon hypothèse, c'est que c'est bien ce dédoublement qui a lieu, et d'un bout à l'autre du livre, que c'est ce double niveau qui se laisse entrevoir, par exemple, dans le sonnet 129, déjà cité, ce hameçon qu'on a dans la bouche et qui fait que sombre l'esprit dans la douleur, ce n'est pas en effet un de ces stéréotypes que je remarque, il n'a pas sa place parmi eux, il les met en accusation, il a été pensé, ou plutôt vécu, par une personne réelle. Et ce n'est pas un hasard si ce poème est aussi, de notre point de vue de moderne, un des deux ou trois plus beaux des sonnets. Enfin, une dernière subtilité, avant de lire certains des sonnets, une subtilité qui porte sur la polysémie de bien des termes employés tant dans les sonnets que dans les pièces de théâtre. Par exemple, le jeu auquel se livre Shakespeare sur le mot « will » dans quelques-uns des sonnets adressés à la Dark Lady, notamment les sonnets 135 et 136. Je cite encore un fragment de la préface d'Yves Bonnefoy. « Tu as ton will, dit l'amant, à la fois inquiet et goguenard, à sa maîtresse, à la fois obsédante et méprisée. Et certes, ce will, c'est William, c'est Shakespeare lui-même qui signe ainsi son œuvre au passage. Mais tout lecteur élisabétain savait que le mot désignait aussi, argotiquement, le sexe de l'homme, le membre dit viril, et le contexte dans ces deux pages est là pour retenir à cette acception par des allusions, des sous-entendus clairement et agressivement érotiques. Et bonne foi de conclure que les sonnets sont un grand moment, mais qu'ils sont moins une œuvre qu'une expérience, et que Shakespeare, je le cite encore, que Shakespeare se posait une grande question sur deux niveaux dans l'emploi des mots, l'un une écriture artistique tournée vers la société et ses divertissements, l'autre une écoute des profondeurs, souci de la vérité, et qu'avec ces sonnets qui furent un dédoublement de soi portant jugement sur la poésie, c'est-à-dire sur l'existence, il a appris à répondre à cette question et, faisant le choix de la profondeur, compris qu'il lui fallait continuer sur sa voie première, rester auteur de théâtre, accueillir sans contrainte et fort de ses intuitions l'humanité comme elle est dans sa nouvelle salle du Globe. Alors, lisons précisément le sonnet auquel Yves Bonnefoy faisait référence, notamment autour de l'image si saisissante du hameçon. Il s'agit donc du 129e sonnet. La luxure, naufrage, en abîme de honte de la force vitale. Pour s'assouvir, elle ment, elle calomnie, trahit, assassine, elle est immodérée, sauvagement cruelle et méprisée sitôt que satisfaite. Follement poursuivie, mais follement haïe, le hameçon qu'on a dans la bouche fait pour que l'esprit sombre par la douleur. Et insensé à vouloir comme à prendre, rage de qui a eu, qui possède, qui cherche, désirer un délice, éprouver un malheur, attendu une joie, passer l'ombre d'un songe, et cela, qui l'ignore, mais qui se garde de ce ciel qui nous voue à cet enfer. Un autre sonnet, le sonnet numéro 55, aucun des sonnets ne portant un titre. Ni le marbre, ni l'or des plus fiers édifices ne survivront mes vers, dans lesquels ta splendeur brille de plus d'éclat que ces pierres que souillent les marques de ce temps qui nous insulte. La guerre dévastatrice peut renverser les statues ou déraciner les murs, mais ni l'épée de Mars, ni la fureur des flammes des pillages ne ruineront ce temple de ta mémoire. Contre la mort, contre l'oubli hostile, il te dresse. Ton éloge aura sens même au regard des âges qui, fibre à fibre, déferont l'univers. Avant qu'au jugement tu ne sortes de tombe, c'est dans mes vers que tu vivras, dans mes yeux, dans leur feu. Je vous fais entendre la version en anglais.
Not marble, nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme. But you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time. When wasteful war shall statues overturn, and broils root out the work of masonry, nor Mars his sword, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. Gainst death and all oblivious enmity shall you pace forth. Your praise shall still find room even in the eyes of all posterity that wear this world out to the ending doom. So, till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lovers' eyes.
J'ai dit que les sonnets, les 154 sonnets, étaient divisés en deux grands ensembles, très inégaux d'ailleurs, avec un premier ensemble qui est tourné vers la personne d'un jeune homme et un deuxième ensemble bien plus bref qui est tourné vers la personne de la Dark Lady. Et donc, à l'exception du sonnet 55 qui vient d'être lu aussi en anglais, les sonnets que je retiens sont tous les sonnets de la dernière partie consacrée à la Dark Lady, comme c'est le cas pour le sonnet 128. Musique de ma vie. Souvent, lorsque tu joues quelque musique et que le bois tressaille sous tes chers doigts qui font jouir les cordes d'une harmonie qui subjugue mes sens, combien j'envie ces touches qui, légères, ne cessent de baiser le creux de tes mains, quand mes lèvres, frustrées de cette cueillette, rougissent près de toi de les voir si hardies. Pour de telles extases, je les sens prêtes à se substituer à ces touches dansantes que parcourent tes doigts, douce pression qui rend le bois mort plus heureux que la lèvre vive. Pourtant, si c'est ce qu'elles aiment, ces effrontées, laisse-leur tes doigts à baiser. Donne-moi tes lèvres.
There were three ravens sat on a tree. Down, down, hey, down, hey, down. They were as black could be with a dawn. And one of them said to his mate, oh, where shall we our breakfast take? With a dawn, daddy, 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 down, down. Down, down in yonder green field. There lies a knight slain 'neath his shield with a dove. His hounds they lie down at his feet, so where they their master keep. With a dove, daddy, 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 down, down. is a fox, they fly so eagerly. Down, down, hey, down, hey, down. There's no foul dare come him nigh with a dog. But down there comes a fellow doe, as great with young as she might go. His bloody head, down, down, hey, down, hey, down, and kissed his wounds that were so red with a dawn. She got him up upon her back and carried him to Arthur Lake.
Le sonnet 132 à présent, qui montrera avec clarté qu'il s'agit de la Dark Lady. J'aime tes yeux. Ils savent que ton cœur me tourmente de son dédain, et par pitié, ils se sont mis en noir. Deuil d'un amour qui regarde avec compassion une souffrance. Et certes, le soleil de l'aube dans le ciel ne sied pas mieux à l'Orient aux joues grises, ni la brillante étoile, après quoi c'est le soir, ne donne autant de gloire à l'Occident sombre que ses yeux endeuillés n'ornent ton visage. Ah, puisse donc ton cœur vouloir tout autant prendre pour moi ce deuil qui te va si bien et en vêtir de pitié tout ton corps. Je jurerai alors qu'est noire la beauté et que sont laides les femmes d'un autre teint. Le sonnet 138. Quand mon amie me jure qu'elle est franche, je la crois, et pourtant je sais qu'elle ment. Afin qu'elle me prenne pour un jeune homme, naïf, inaverti, des roueries de ce monde. Et, pour rêver qu'elle me pense jeune, alors qu'elle sait bien que mes jours déclinent, j'accorde tout crédit à sa langue menteuse. Ainsi, des deux côtés, nous nous abusons. Mais pourquoi ne dit-elle pas qu'elle est insincère? Pourquoi ne dis-je pas que je suis vieux? Or, c'est que l'amour aime paraître franc et que l'amant vieilli aime paraître jeune. Et donc moi, je lui mens et elle me ment. Et nos torts, nos mensonges sont notre lit. Sonnet 139. Ne me demande pas d'approuver le tort que ta déloyauté fait à mon cœur. Blesse-moi par la langue et non les yeux, que me tue ton pouvoir sur moi et non tes ruses. Avoue, tu aimes d'autres hommes, mais devant moi, évite, mon cher cœur, de les chercher des yeux. Quel besoin de blesser par ses manœuvres quelqu'un qui, contre toi, est sans défense? Bien, je vais t'excuser. Oui, mon amour, tu sais que tes regards lascifs furent mes ennemis, et voilà bien pourquoi tu les détournes. C'est ailleurs que leurs flèches devront blesser. Mais n'en fais rien. Tu es, je le suis presque, que ton regard m'achève et finisse mes mots. sonnet 144 à présent, qui explicite parfaitement les deux ensembles dont j'ai parlé. J'ai deux amours. L'un fait ma joie, l'autre m'accable, tels deux génies qui sans répit m'assaillent. Le bon, un ange, est homme et la beauté même. Le mauvais, un démon, est femme de couleur sombre. Pour me jeter plus vite en enfer, mon fléau, cette femme, veut de mon ange qu'il m'abandonne. Mon saint ami, elle tente d'en faire un diable, de le séduire à sa lubricité. Et que démon soit maintenant mon ange, sans pouvoir l'affirmer, je le soupçonne. Car ils sont loin de moi, tous deux, ils sont amis, je crains que l'un ne soit dans l'enfer de l'autre. Mais je n'en saurai rien, je vivrai dans le doute, tant que le mauvais feu n'aura pas fait son œuvre. Le sonnet 151. Amour est trop enfant pour savoir le mal, et pourtant, qui ne sait qu'il naît de lui ? Donc, ma douce tricheuse, ne sonde pas trop mes fautes, tes attraits se révéleraient les vrais coupables. Car c'est ta trahison qui me fait consentir à trahir le plus haut en moi pour le plus bas. Mon âme, tu apprends à mon corps qu'en amour il a droit au triomphe et que ma chair impatiente se dresse rien qu'à ton nom et te cherche comme la proie de ce triomphe. Fou de ton feu, mon corps se rêve ton esclave pour combattre sous toi, choir tout contre toi. Rien d'immoral quand je dis mon amour à celle dont le désir me dresse, après quoi je retombe. Il faut lire les commentaires d'un des deux traducteurs dont j'ai parlé, à savoir Robert Elroth, pour percevoir, par exemple, toutes les allusions sexuelles dont ce dernier sonnet était chargé.
Thank you.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre d'abord un morceau intitulé « The Three Ravens » interprété par le contre-ténor Alfred Deller. Puis vous avez pu entendre au théorbe Daniel Zapico qui jouait un morceau français, en fait, celui-là de Michel Lambert, « Ma bergère est tendre et fidèle ». Vous avez pu entendre aussi le morceau intitulé « Flow My Tears » de John Dowland, un contemporain de Shakespeare, avec la soprano Phoebe Sheftovic-Rosquist et au luth David Taylor. Et j'ajoute que était lu le sonnet numéro 55 en anglais par Deborah Findlay. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.